One, two, three.
Je suis This is La Peste.
Je suis Pierre de Valambreuse.
Je suis Martin Kénéen.
Et je suis Mathilde Serrel.
This is, vous êtes rappeur, auteur, acteur, une sorte de serpent qui mue à chaque album et à chaque aventure tout en gardant la langue bien pendue et votre vision extra lucide, comme on le constate, avec votre nouvel album Pacifique qui vient de paraître chez Polydor et dans cette émission rivale qui met complètement ping-pong à l'amande, Radio This is à découvrir en podcast sur iTunes Music. Quant à vous, Pierre de Valambreuse, enfant vous vouliez être Mowgli, ensuite vous avez partagé le quotidien de plus d'une trentaine de peuples à travers le monde, vous avez constitué un fonds photographique sur 42 peuples autochtones, plus de 140 000 clichés. Vous, le photographe, vous vous apprêtez donc à recevoir le prix Albert Kahn le 19 juin, ce prix qui international, qui, rappelons-le, a couronné aussi les travaux par le passé de Raymond Depardon ou Marc Ribou.
Ping-pong, la culture sans limite. Oh, yeah. Edith.
There are several fine young men who I'm sure are gonna go far. Ladies and gentlemen, the Ramones.
I'd just like to say this gig sucks.
Hey, up yours, Springfield.
One, two, three, four.
Go to hell, you old bastard.
Le groupe punk américain Les Ramones, dans un épisode culte des Simpsons, souhaitant son anniversaire au boss de la ville, Mr. Burns, tout en l'insultant. Ce qui occasionne un fermé de rideau précipité. La scène pourrait-elle être un résumé de cette Amérique au lendemain des 71 ans du président Trump? Cette Amérique des Simpsons, complètement schizo, complètement folle, c'est celle que nous raconte l'écrivain Jean-Paul Dubois, dont les chroniques des 72 voyages aux États-Unis de 1990 à 2001 reparaissent aux éditions de l'Olivier, augmenté d'une préface de l'auteur. Il écrit « Considérant aujourd'hui cette nouvelle et déconcertante blondeur présidentielle, cet univers louche de telenovelas adoubé par Wall Street, ce monde informe, sourd et aveugle à ses propres souffrances, je ne peux m'empêcher de revoir le visage et d'entendre la voix d'un vieux détenu du Texas. Il paraît que je terrifiais mon quartier. Moi, je vais te dire, c'est l'Amérique tout entière. » qui m'inquiète. L'Amérique qui fait peur. L'Amérique des marginaux racontée par Dubois, celle d'une maison de fous, comme le relate notre partenaire, le magazine Gradia, cette semaine. Un détraqué sexuel qui réclame la castration chimique. Une milice de nettoyeurs anti-délinquants. Une ancienne bonne sœur devenue lesbienne militante délivrant des cours de Godemichet. La cacophonie chez Dubois, magistralement discordante, nous transmet ce qu'il appelle chez ses personnages le bruit de leur vie. Un bruit qui fait comme un pétage de plomb. Elle pète les plombs, l'Amérique, This is La Peste. En tout cas, c'est ce que nous raconte Jean-Paul Dubois dans ce livre de chronique qui est republié aux éditions de l'Olivier. Vous, il y a un côté livre de chronique sociale dans ce 11e album Pacifique. Je parlais de ce mot rappeur utile, mais vous le dites aussi à un moment dans la chanson Lutte, L-U-T-T-E. C'est du This is, donc c'est plus que des disques. Moi, je décode la vie, je fais pas des codes barres. C'est un décodage de la vie que vous avez opéré avec son 11e album.
Ce serait trop prétentieux de dire que c'est ce que j'ai voulu faire, mais j'ai voulu décoder en tout cas ma vie et mes émotions, sans parler que de mon petit nombril, c'est-à-dire aussi je me suis inspiré des gens que je rencontre, de ce que je vois, des documentaires, de livres, de plein de choses, et j'essaie de décoder à chaque disque, si on peut dire, mais particulièrement sur Pacifique, un peu le monde dans lequel je vis et l'époque dans laquelle je vis, et j'ai peut-être trop cherché parce qu'elle m'écœure beaucoup en fait.
Mais c'est les gens qui vous entourent, il y a vraiment des récits, on sent qu'ils ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas des récits autobiographiques, qui sont des histoires d'esclavagisme moderne. C'est pas que vos relations amoureuses, donc vous êtes allé les chercher où, ces chroniques, un petit peu comme Dubois est allé rencontrer ces marginaux aux États-Unis?
En voyageant, et puis je fais des interventions dans des prisons, dans des foyers socio-éducatifs, puis j'ai de la famille, et puis le parcours de ma petite maman, enfin tout ça en fait. Le truc qu'il y a, c'est que, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas besoin forcément de vivre les choses pour les comprendre, parce que c'est ce qu'on appelle l'empathie en fait. Des fois, ça me touche presque, pas plus, mais en tout cas presque autant que les gens qui vivent des choses, quoi. Ça me transperce, ça me traverse, et du coup j'en parle dans ma musique.
Pierre de Valambreuse, vous, on peut dire que vous vivez les choses, vous allez sur le terre-terre, comme on dit dans le rap, sur le terrain. Photographe, vous avez fait bien plus de 72 voyages, ceux qu'évoquait Mathilde à propos de Dubois, et pas qu'aux États-Unis. Et vous montrez aussi avec vos photos, en apparence, qui ont quelque chose auprès de ces peuples autochtones que vous avez rencontrés tout au long de ces décennies, quelque chose d'idyllique par moment. Et puis, il y a ce monde magistralement discordant qui apparaît aussi dans vos images. Est-ce que votre façon de décoder, pour reprendre les termes de This Is, la réalité, notre monde, c'est un choix qui vous anime au moment où vous allez prendre la photo, où vous choisissez un cadrage qui, pensez-vous, permettra de décoder, ou c'est dans l'après-coup que vous réalisez que dans vos images, prises au moment, peut-être sous une impulsion, comme ça, comme un shot, comme disait Cartier-Bresson, c'est après-coup que vous réalisez qu'il y a matière à décoder?
Alors c'est toujours un choc au départ parce qu'on reçoit quelque chose et on doit, et notre talent si on en a un petit peu, c'est d'essayer de le cadrer, d'essayer en gros de lui donner une forme pour pouvoir le restituer aux gens. Donc moi j'ai besoin de vivre les choses, de les ressentir. Après on rentre dans une énergie où on est un petit peu des capteurs, une espèce de méga capteur de tout ce qui se passe au niveau visuel, de la lumière, des émotions. Après on peut avoir, il disait Cartier-Bresson qu'une bonne photo c'est la synthèse du cœur, du corps et de l'œil. Donc voilà, on est à un moment total. Quand je suis pas dans un moment total, je fais des images plus documentaires, ethnographiques. Et puis quand je suis un peu vraiment dans cette totalité où tout d'un coup tous mes sens vivent, c'est là où je pense que je fais une très bonne photo.
Si mais ça se joue à la milliseconde. Il n'y a pas le temps de réfléchir. Vous savez qu'il faut y aller, ou au contraire vous pouvez attendre, vous laisser justement comme ça emporter par le climat, par l'atmosphère, avant de choisir d'appuyer sur.
C'est un mélange des deux. On est à la fois dans l'attente, on est des guetteurs. On peut être, je passe des journées tentant à rien faire, à regarder. Et puis il y a des moments où il faut savoir un petit peu comme un chasseur aussi. Tout d'un coup l'image se présente.
Un chasseur-cueilleur d'images.
Chasseur-cueilleur d'images, ça me va très bien. Oui.
Le chasseur-cueilleur d'images, Pierre de Vallombreuse. Et le rappeur utile, donc, paraît-il. En tout cas, pas conscient, mais utile. C'est ce que vous aimez dire, This is la peste. C'est dans Ping Pong ce soir, on va en entendre un peu du flow pacifique.
Ah bah oui. Hey DJ, mets-moi un bon son.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Dès le départ, c'était plié. Blani, blani, ça c'est aimé. C'était un tarba, tarba, tu le savais. Kaira, Kaira, t'as fait rêver. Dès le départ, c'était plié.
Faut que j'serre cette go. Un truc bien dansant. Faut trop que j'ai cette go.
Dis-moi, maman, c'est quoi ma maladie? Ils veulent pas de moi, pas d'elle, pas de toi aussi. À quel moment, dis-moi, j'ai mal agi? Je sens qu'il chauffe, qu'il brûle, hémorragie.
Rien de pire que l'exclusion. Comment accepter d'être aimé à moitié? Enfant, monde enchanté. Mauvais paroles, laisse les cœurs en chantier. Et l'abandon, ça fait des dégâts. Ça fait des gueux d'un des déglingués. Des gens largués tout en jet lagué. Qui vivent en zigzag tout le temps aux aguets.
Dès le départ, c'était plié. Blani, blani, ça c'est aimé. C'était un tarba, tarba, tu le sais.
Faut que je plonge dans la vie, dans l'amour, dans une vie où je sens, où je plonge pour toujours
dans la bible.
Donc je plonge. Je plonge, je plonge, splash. Je plonge, je plonge, je plonge, splash.
La fille de la piscine, cet inconnu sublime, noyé dans ses pupilles, subtil et le souvenir. La fille de la piscine, cet inconnu sublime, noyé dans ses pupilles, subtil et le souvenir. Son corps se dessine sous l'eau. Et franchement, elle est you know. J'avoue, j'ai fait le boulot et j'ai regretté d'avoir dit non.
Quand je serai KO, tombé lors d'un rodéo, poussé plus bas par des plus beaux, des plus frais que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort?
Comme un souvenir d'un long périple, l'Antoine de Saint-Exupéry. Certains vivent pire, le temps est pénible, enfance malheureuse, terrible. Moi que ma mère, guerrière céleste, sur l'étoile cachée par plus con. Je me suis vu moi-même, dans un rêve funèbre, je me disais dessine-moi un matin. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. J'étais même pas là, j'étais dans l'espace. Moi j'ai rien à voir avec cette histoire. Avec ce type-là, je suis d'une autre espèce.
Splash, La fille de la piscine, Quand je serai KO, Autre espèce. Voici quelques vagues, quelques petites perceptions et quelques tsunamis qu'on peut retrouver dans votre nouvel album This is Pacific, qui paraît donc chez Polydor. Pacific, qui a évidemment aussi une connotation politique, on l'entend dans les sonorités très électroniques qu'a mixé donc notre réalisateur Thomas Beau, qui l'a voilà fait s'enchaîner quelque chose du futur, du turfu dans ce nouvel album en 2017. Et en même temps, il y a quelque chose dans les sonorités et surtout dans les textes, avec notamment cette histoire de cette fille de la piscine croisée quand vous étiez préadolescent ou tout jeune adolescent à Évry. Quelque chose, me semble-t-il, de premier, d'autochtone, pour parler comme Pierre de Vallombreuse, de viscéral. Qu'est-ce que c'est cette part primitive qui vous colle à la peau et qui est toujours là et qui énerve un peu ce 11e album?
C'est que, en fait, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Matrix, où il y a cette espèce d'image, cette métaphore entre la vraie vie et la vie, la fausse vie, entre donc la pilule rouge et la pilule bleue. Cet instinct primitif, si on peut dire, c'est toujours coller à la pilule rouge et voir la vie telle qu'elle est, et donc m'accrocher à mes souvenirs. C'est-à-dire qu'en gros, quand je fais un titre comme La fille de la piscine, je vois bien qu'on est passé dans un autre paradigme aujourd'hui et que les relations sentimentales, elles sont basées sur beaucoup de choses fausses. Ça a toujours été un peu comme ça, c'est normal.
D'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle Menteuse.
Voilà. Ouais, Menteuse, voilà. Ça a toujours été un peu comme ça. Sauf que je pense que le curseur du mensonge aujourd'hui est d'une identité hyper inventé. Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut avec les réseaux sociaux. Et du coup, plutôt que de faire un texte de vieux con, excusez-moi le mot, en disant « Ouais, c'était mieux avant », je préfère raconter moi comment j'ai vécu mon adolescence et mon côté un peu fleur bleue, un peu bête et tout. Ça fait pas de moi un gentil garçon, hein, pas du tout. Mais en tout cas, je préfère le raconter comme ça plutôt que de faire des leçons de morale sur « Ouais, on est passé dans autre chose et tout truc ». Voilà.
Cet album Pacifique qui boucle aussi la boucle avec Poisson Rouge. Votre premier album, This is La Pêche, parlait de chronique sociale tout à l'heure. Il faut le rappeler que ce titre, Je pète les plombs, chronique dans un McDo d'un type qui veut un Mac Morning et puis c'est fini. C'était inspiré donc de Falling Down, Chute libre, à l'époque, hein, un type qui pète les plombs dans les embouteillages. Donc ça a toujours été là, finalement, cette espèce de façon d'attraper la vie autour de vous. Et en même temps, je me dis, comment vous attrapez cette tendance, et on l'a entendu, cette espèce d'axiome du rap aujourd'hui qui est de faire de l'autotune. On sent que vous avez aussi une manière très différente de vous en emparer, peut-être de le déformer, de raconter autre chose, d'être sur un mode beaucoup plus mineur, et justement vers l'extérieur plutôt que vers ce que les rappeurs appellent l'ego trip.
Ouais, en fait, moi, mon utilisation de l'autotune, en fait, c'est que je l'utilise pas. Ça veut dire qu'en gros, l'autotune, c'est fait pour corriger la voix quand on chante faux. Moi, c'est pas du tout l'utilisation que je veux en avoir. C'est-à-dire que moi, j'aime vraiment la chanson, j'aime vraiment les mélodies, j'aime la soul, j'aime la variété, j'aime plein de choses. Ce qui fait que je chantais dans mon coin, mais j'osais pas chanter en vrai. Donc, du coup, pour me donner confiance, j'ai pris des cours de chant, des cours de piano, et voilà, et j'ai chanté en vrai. Pour autant, les effets que j'ai ajoutés, c'est pas pour. En fait, c'est pour servir le propos. Vous parliez de Rado tout à l'heure, qui est l'intro du disque. En gros, j'ai chanté en voix de tête, donc en voix haute, à l'aigu. Et vu que ça, je parle de quelqu'un qui est dépressif, qui se laisse aller, qui est dans son lit, eh ben, j'ai ralenti la voix, j'ai mis un pitch lent. Ce qui fait que là, du coup, l'effet, il sert à quelque chose. Et c'est pas juste un effet qui est mis comme ça de manière superficielle. C'est-à-dire que j'essaie que tout soit là pour une raison précise.
Alors, on parle de flow dans le rap, on est là-dedans, dans cet élément océanique et aquatique dans l'album Pacifique de This Is. Mais Pierre de Vallombreuse, quand vous, on vous parle du Pacifique, vous qui avez donc arpenté la planète et en particulier les archipels, les îles et les pays qui bordent l'océan Pacifique, quand on vous dit Pacifique et musique, vous avez quelle musique ? Dans
Pacifique et musique, oh, c'est un des films qui m'a le plus bouleversé, qui est La ligne rouge de Terrence Malick.
Bah oui, qu'est-ce que j'aime ce film.
Où il y a tout d'un coup ce chant où lui revient après avoir vécu des combats très durs, alors qu'avant il allait se planquer, même d'y déserter dans une population autochtone qui était sur les bords de mer, qui était très douce visiblement, et il revient chargé de toute sa violence. Et les gens, tout d'un coup, le voient arriver et ont peur de lui et s'enfuient. Et il y a une musique dedans qui est extraordinaire, qu'on peut, avec un chant comme ça de voix d'une extraordinaire de ces gens qui sont peut-être un chant religieux, je sais pas, mais qui chaque fois me tire des larmes. Donc voilà, pour le Pacifique, c'est ça. C'est pour moi, ça vient de ce film-là. C'était repris par des assurances. Je trouve ça malheureux parce que ça a tout cassé.
Je sais pas pourquoi,
mais c'était
La ligne rouge, This is La Peste.
Ah bah oui, moi Terrence Malick, c'est un cinéaste qui me plaît beaucoup. Faut savoir qu'il a failli être prêtre, qu'il a perdu son petit frère, et donc tout ce rapport hyper spirituel, on le ressent dans ses films. C'est-à-dire que ce qui est fort chez Terrence Malick, c'est que chaque image, après pas dans ses derniers films parce que je trouve qu'il commence un petit peu à se perdre, mais en tout cas jusqu'à La Ligne Rouge, chaque image c'est une poésie. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on coupe le plan, chaque plan c'est une poésie, et enfin c'est magnifique.
Mais votre Pacifique, est-ce que c'est pas le contraire de Terrence Malick, c'est-à-dire que vous arrivez sur des côtes et une société gangrenée par la violence, et vous arrivez avec toute votre tendresse, tout votre amour et tout votre espoir?
Je sais pas trop ce que j'ai fait en fait, c'est-à-dire que j'ai tellement pas conceptualisé ce disque, je me suis tellement concentré sur les émotions pures que en gros je l'ai appelé Pacifique après en fait, c'est-à-dire que j'avais 40 chansons, j'étais à l'Olympia, j'ai loué l'Olympia exprès pour pouvoir écouter ces morceaux-là tout seul, donc un matin pendant que les gens faisaient le ménage et tout, et j'ai écouté ces 40 chansons et parce qu'il fallait que j'en choisisse une vingtaine. Et du coup, c'est de là que m'est venue cette idée de Pacifique, parce que je me sentais bien, j'étais en paix avec moi-même, et c'est comme ça que j'ai trouvé paix, Pacifique. Enfin voilà, ça m'est venu comme ça. Et après, j'ai développé toute cette idée d'image, de vagues, les vagues des émotions et tout ça. C'est venu après. Mais la paix intérieure, c'est ce que je recherche le plus. Je pense pas que je la trouverai, mais c'est ce que je recherche le plus en tout cas.
Je rêve d'un carré bleu, je veux me barrer de là, par exemple, c'est ce que vous chantez. Il est aquatique aussi dans cette unité bleue. Il y a la fille de la piscine, etc. Il y a les sonorités aussi qui sont extrêmement aquatiques. Donc finalement, ce lien, il se fait naturellement. Devant le désastre, il faut imaginer des astres. J'espère
oui,
que
ça.
Je vous cite bien.
Oui.
Et donc, il y a quand même, par rapport à ce que disait Martin, cette idée, pas d'arriver comme un bisounours sur des côtes hostiles, mais quand même de lutter contre le cynisme et d'aller inventer des astres là où justement on se confine dans le désastre, dans le déclinisme, dans le cynisme.
C'est ça en fait, et ça, c'est une question que je voulais absolument vous poser, Pierre. C'est que déjà moi, ma petite perception de l'être humain que j'ai vu quand je disais tout à l'heure, quand je fais des interventions en prison ou bref, par rapport à des histoires personnelles et tout, c'est ce que je dis à un moment dans un des morceaux, dans Carré Bleu justement, je dis j'ai la misanthropie qui m'attend à bras ouverts, c'est soit je couche avec, soit je finis les veines ouvertes. C'est-à-dire que j'ai pas vu le quart du désastre humain et de la cruauté humaine comparé à vous. Et je sais pas comment vous faites pour tenir debout, parce que moi, rien que vos livres, quand j'ai lu ce livre-là, quand j'ai vu la belle photo, enfin la belle photo, malheureusement, très dure.
Le livre Peuple, donc, qui voilà, est presque introuvable.
Voilà, donc au Chiapas, où on voit les gens qui essaient de reconnaître le corps de leurs gens qu'on a mutilés, mais moi, je vois ça, je sais pas comment. Déjà, j'ai pleuré quand j'ai vu ça, et donc le voir en vrai et être au contact de tous ces gens tout le temps. Franchement, vous avez énormément de courage, parce que c'est grâce à des gens comme vous, c'est comme un rappel en fait, un rappel qu'on est humain et que ta petite vie d'occidental où tout va bien, ben c'est pas aussi simple que ça quoi. Et du coup, je sais pas comment vous faites.
Pierre de Vallombreuse, c'est difficile, mais en même temps c'est aussi des antidotes que vous proposez dans vos images,
parce qu'il y a aussi des. Ah oui, parce que sinon je pèterais la cervelle tout de suite.
Voilà, il y a des formes aussi d'organisation sociale qui sont heureuses et dont on pourrait s'inspirer. Enfin, comment vous êtes entre le noir et le blanc finalement?
Maintenant, ce que pour répondre à d'ici, c'est que ce qui nous fait tenir quand on fait ce travail-là, c'est de savoir qu'on va retransmettre, qu'on est là pour montrer, et donc pour éviter l'anonymat, l'oubli. Et donc c'est la seule chose, à partir du moment où on retransmet l'histoire, ce qui s'est passé, ça nous permet déjà de l'évacuer en partie et d'assurer une fonction qui est d'être de témoin. C'est la seule façon de pouvoir tenir face à des choses comme ça. C'est de se dire qu'on est contre l'oubli. Même si c'est ténu, même s'il n'y a pas beaucoup d'illusions à la clé, même si on n'a pas rarement des résultats, le pire c'est de tuer deux fois les gens, ils sont tués, massacrés. Et en plus si c'est dans l'oubli, dans l'ignorance, sans que personne soit au courant, c'est la pire des choses. Donc on a cette fonction. Donc c'est ce qui nous permet de continuer à tenir. Moi, je me suis arrêté à temps parce que j'aurais pu jamais revenir de ce royaume-là. C'est vraiment le royaume des ombres et donc je me suis arrêté. Heureusement, j'ai rencontré ma deuxième femme à ce moment-là. Et alors que j'avais réussi beaucoup une période de rentrer dans des choses assez dures, et je savais que si jamais je continuais, Déjà, le vase était un peu fêlé, mais à un moment donné, il allait exploser.
Bien, on peut pas rester indemne.
Donc après ça, voilà, j'ai choisi autre chose, et puis voilà. Mais en même temps, on est habité aussi. Moi, je suis très habité par des combats, mais ça, c'est quelque chose qui nous rapproche aussi avec DC, c'est que c'est un combattant à sa façon. Il a aussi vu. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de différences finalement. J'ai vu quelques images très crues, effectivement, de choses horribles, des corps bombardés, explosés. Mais je pense qu'on a tous au quotidien la violence, la haine, le racisme. Les choses sont vécues au quotidien et ce sont des douleurs, ce sont les mêmes douleurs. C'est les formes qui changent simplement. Donc on n'est pas, je pense qu'on, si on se parlait un peu plus, qu'on se voit, on s'apercevrait qu'il y a, voilà, on est tous au contact de tout ça.
Mais on a le sentiment, en voyant votre carrière, en particulier si on met les yeux, on jette les yeux dans ce livre Peuple, que les images que vous réalisez à vos tout débuts, quand vous vous lancez dans la photographie et à la rencontre de ces peuples autochtones, vous êtes à la recherche justement d'une société qui serait édénique, qui serait paradisiaque, où la violence n'existe pas. Et puis tout d'un coup, vous devenez le témoin, vous l'avez trouvé, mais en même temps, quelques années plus tard, vous devenez le témoin, presque malgré vous, de la désintégration des sociétés qui sont rongées par la cupidité de ceux qui veulent exploiter les ressources minières, qui veulent exploiter la culture. Qu'est-ce qui vous a fêlé ? Qu'est-ce qui a fait déclic, pour employer un terme de photographie ?
Pour résumer, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai trouvé une société, elle a été déjà, il y avait des ethnologues qui l'avaient fait, moi je n'ai jamais découvert de peuple, j'étais toujours dans des endroits qui avaient déjà été découverts. Un peuple qui ne veut pas être découvert, il faut le laisser tranquille, parce qu'il nous évite, en fin de compte. Ils sont au courant, donc il ne faut jamais aller vers des gens, les peu qui restent, aller au contact, parce que c'est eux. Donc voilà, donc j'ai trouvé une société qui sont les Palawan, dans l'île de Palawan, que je fréquente maintenant depuis bientôt 30 ans.
Vous revenez depuis quelques jours.
Depuis trois mois. J'ai passé, je crois, 3 ans et demi. J'ai fait 17 voyages. J'y retourne encore là. Donc, au début, j'y suis allé parce qu'on m'avait dit il y a des gens qui vivent dans des cavernes, petite vallée au sud des Philippines, pas de route. Tu verras, c'est la préhistoire, c'est tout. Moi, je me disais, c'est le rêve de l'exotisme. Je vais trouver enfin, je vais pouvoir devenir Mowgli, retrouver un royaume perdu, quitter cette humanité qui me faisait vraiment, qui me faisait plus de mal qu'autre chose. J'avais du mal à l'affronter. Donc, il y avait un désir de trouver quelque chose qui me fasse du bien. Il y avait de la naïveté, donc. Et puis, donc, j'arrive dans cet endroit où, effectivement, une société de gens adorables, très beau, une vallée sublime, 170 hectares avec des falaises calcaires, des cavernes qui montrent à personne. Puis moi, je gagne la confiance. Donc, je vais avec eux. Et puis, on devient de très, très, très grands amis. Donc, pendant 10 ans, j'y suis allé tous les ans. J'ai jusqu'à des séjours de 6 mois. Enfin, voilà. J'avais trouvé mon paradis. Entre temps, je faisais quelques reportages sur d'autres peuples. Donc, je savais un peu qu'est-ce qui attendait. Et puis, au bout de mon 3e séjour, 6 mois, tout d'un coup, en sortant de la vallée, on va sur la côte. On avait pas mal d'heures de marche pour descendre des montagnes sur la côte. Avant la côte, il n'y avait pas de route. Il fallait prendre des petits bateaux à balancier qui allaient ravitailler les premiers pionniers philippins avec les premières écoles, des petits pêcheurs pauvres comme Job, des gens qui n'avaient pas un sou et qui étaient là, qui étaient venus du reste de l'archipel des Philippines pour essayer de survivre. Donc, on avait les prémices d'un front pionnier, mais qui restait cantonné sur les basses terres, sur ceux qui vivaient de pêche. Et donc, on descend, puis on entend des bulldozers, la route se construit. Donc là, tout d'un coup, j'ai senti que mon royaume, que j'avais trouvé, qui était un royaume extraordinaire, allait être détruit. Donc pendant plusieurs années, j'ai accompagné les changements, parce que qui dit une route dit bien sûr les migrants, disent l'administration, l'armée, des ethnologues, enfin voilà, pas mal de monde,
des missionnaires,
et qui donc à la fin des 10 ans, il y en avait des missionnaires qui venaient de plus en plus souvent, avaient converti l'homme véreux de la vallée, donc il avait réussi à emmener à peu près 10% de gens dans la chrétienté, donc il y avait des scissions, et du coup moi je me suis dit que cette vallée qui était quand même une société en plus exceptionnelle, puisque c'est elle fait partie des 5 à 6 sociétés pacifiques au monde qui n'usent pas de violence.
Et aussi,
ils sont anarchistes, ils n'ont pas de chef.
Et ils ont un rapport aux femmes qui est assez heureux aussi.
Égalitaire.
Égalitaire, que vous avez pu raconter dans Souveraine, c'est peuple où les femmes sont libres. Peut-être un mot sur ça.
C'est un peuple qui a tout pour plaire, parce que d'abord ils sont égalitaires, donc il y a une répartition des pouvoirs entre autres. Les gens sont libres de dire oui ou de dire non. Il n'y a pas de force de coercition, il n'y a pas de prison, ils refusent la violence physique. Et ils mettent l'humour dans leur constitution, c'est-à-dire que tout le monde fout de sa gueule en permanence pour éviter l'ego. En gros, c'est la meilleure façon de. Donc, on est affublé de sobriquets les plus ridicules possibles dans des discussions qui fait que, avec des chefs, des choses. Donc, c'est très. Si nos présidents s'appelaient, tête de nœud, c'est comme ça qu'on les appellerait.
Ça désacralise.
Donc, ce qui fait que finalement, on a un rapport plus direct aux choses.
Ça leur arrive aussi en France.
Ce qui ne veut pas dire que les choses ne sont pas prises sérieusement, mais l'être humain dans son ego est un peu malmené. Et donc donc pour vous dire, donc finalement, moi j'ai cru que ma petite vallée chérie, ces gens, cette société admirable allait être détruite. Donc je l'ai abandonnée lâchement et je me suis dit la destruction que je leur prédisais, je vais aller la montrer dans le monde entier. Et j'ai été témoigné de toutes les formes de destruction, de combat, de révolte des autres peuples dans le monde entier en pensant à ma vallée chérie.
Mais alors, d'ici la peste, il se trouve que Pierre de Vallombreuse, lui, va chercher chez les autres le malheur, la destruction pour essayer d'éclairer, je pense aussi, ses propres fêlures dont il nous parlait. Et vous, c'est la position un peu inverse. Vous dites, j'essaie de parler de la détresse des gens en explorant la mienne. Et on a le sentiment que dans cet album Pacifique, c'est une nouvelle fois le cas. Vous mettez votre vie sur la table pour affronter l'avenir. Et voilà, vous prenez à bras le corps votre copine, la bitch mélancolie.
Ouais, c'est
et ça vous permet d'être universel.
Oui. C'est-à-dire que je. En fait, c'est hyper compliqué parce que je déteste les artistes qui vendent leur névrose. Je trouve que, et en plus, c'est un genre l'autofiction, tous ces trucs-là qu'on a vu en littérature et tout. Oui, mais c'est un peu la matière que j'ai. Sauf que j'essaye d'être altruiste en parlant de moi. Vous voyez, c'est toujours complexe en fait. C'est-à-dire que je m'inspire de. C'est-à-dire que pour m'autoriser à parler de choses qui vont pas, j'attends que d'autres l'aient vécu, en fait. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est peut-être trop complexe, hein.
Non, on l'a compris. Ce système d'autorisation chez vous, c'est important,
ça. Voilà,
par rapport
c'est ça.
À la littérature.
C'est ça.
Et aussi par rapport au combat.
C'est ça.
J'ai été invité par la communauté afro-américaine de Paris, qui organisait un meeting avec l'appui de la communauté africaine à Paris. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport de Paris, ils m'ont dit que je ne pouvais pas rentrer dans le territoire. Des gens, des Français. Et la seule explication qu'ils ont pu me donner, c'est « nous avons reçu des ordres » et ils ne m'ont pas laissé appeler l'ambassade américaine. Et ils m'ont laissé entendre que l'ambassade américaine était derrière tout ça. Ce à quoi j'ai répondu, j'ignorais que la France était gouvernée par les États-Unis, et ça les a mis très en colère, parce qu'ils aimaient bien prétendre qu'ils sont indépendants. Il y a aujourd'hui un grand nombre de personnes à la peau sombre qui s'ajoutent à la population noire de Grande-Bretagne, de France, et cela leur pose un sérieux problème. Car jusqu'ici, aucune tentative n'a été faite pour unir les Afro-Américains ou la population noire américaine avec ceux outre-Atlantique. Et ensuite, ces deux communautés, à la communauté africaine, à la communauté asiatique, et ça n'a jamais pu se faire jusqu'ici. Et c'est cela qui fait peur à beaucoup de gens dans ce pays. Beaucoup, parmi ceux qui sont au pouvoir, veulent que nous restions minoritaires et ne veulent pas que nous soyons dans un militantisme. Et sont contre une organisation qui réussit à réunir des peuples, groupements ou fractions dont les théories ou idéologies seraient d'envergure internationale plutôt que nationale. Et si jamais ils veulent jouer au dur, nous avons aussi des gens qui peuvent faire les durs autant qu'eux.
1965, Malcolm X est interdit de séjour en France et voilà les mots qu'il prononce. This is La Peste, c'est une figure importante pour vous. Je le disais, la littérature, vous avez eu du mal à vous y autoriser. D'abord, accepter de se dire qu'on peut lire. Vous dites que parfois, dans les quartiers populaires, on pense que la littérature, c'est pas pour soi. Ensuite, s'autoriser à écrire un roman, bien sûr, ça a été tout un parcours. Et dans les ouvrages de jeunesse, il y a l'autobiographie de Malcolm X qui vous accompagne finalement, puisque vous allez essayer de la transmettre à un jeune garçon. Vous vous rendez compte que voilà, il n'y a pas de traduction française, vous avez essayé de reprendre les droits, vous avez fait un concert hommage aussi en 2015. En quoi cette figure, elle est essentielle pour vous? Et finalement, c'est un peu le, voilà, votre frère de parcours, Malcolm X.
Je dirais presque une figure plutôt paternelle.
Paternelle, en fait. Même, ouais.
En gros, ce qui est fort chez Malcolm X, c'est que dans l'inconscient collectif, on met toujours en opposition Martin Luther King et Malcolm X. Martin Luther King, c'est le gentil, Malcolm X, c'est le méchant. Sauf que quand on regarde les choses avec nuance, on voit bien que c'est pas du tout... Enfin, on peut pas les mettre en opposition comme ça. Et d'ailleurs, ils sont absolument complémentaires. Dans le sens où Martin Luther King, dans son discours très apaisé, moi, je suis plutôt, au fond de moi, plus dans un discours comme ça. Il y a des gens qui touchaient pas, en fait. Des gens qui étaient trop en colère. Quand tu leur parles de paix et de faut aimer son prochain, ça marche pas. Alors que Malcolm X, lui, il arrivait à toucher aussi les gens qui étaient vraiment marginaux, en déconstruction totale et qui avaient complètement passé le pas, en fait. Et du coup, je me suis aussi intéressé à Malcolm X parce que j'avais cette vision-là aussi du méchant et du gentil. Et en lisant son autobiographie, ça m'a complètement chamboulé parce que j'ai vu que c'était pas du tout ça, en fait. C'était pas du tout quelqu'un de forcément que méchant ou que... Je prends des termes enfantins exprès, hein. Alors qu'au contraire, il était plein de nuances et que vers la fin de sa vie, il s'est plutôt rapproché de Martin Luther King, pardon. Et du coup, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce que son parcours de vie, sa radicalité intelligente font que c'est quelqu'un d'extrêmement salvateur, je pense. Enfin, c'est tout ce qu'il a apporté et son authenticité, même dans ses erreurs, quand il dit je me trompais quand je disais que et tout ça, enfin c'est quelque chose de très grand qui m'inspire beaucoup, en fait.
Je parlais de ce principe de s'autoriser de s'autoriser en littérature et de s'autoriser aussi peut-être dans l'engagement. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait réfléchir justement sur la position nuancée? Je sais que Dizzy Lapace, vous aviez pris la parole au moment des soulèvements, des émeutes dans les quartiers populaires en 2005, et puis vous avez regretté d'avoir finalement joué le numéro apaisé, instruit du jeune de banlieue qu'on attendait de vous. Donc en quoi Malcolm X, là aussi, peut-être vous a fait réfléchir sur une autre manière, en tout cas de porter la voix, de se faire entendre, mais sans faire son numéro, en tout cas soumis.
Oui, c'est ça.
Là, il est très insoumis dans cet archive.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, je suis un rappeur, donc c'était facile de m'instrumentaliser. Et du coup, j'ai joué un peu le jeu à une époque de... En fait, je voulais tellement redorer le blason. J'entendais tellement à la télé, oui, les mecs des cités, ils savent pas parler, ils savent pas aligner trois mots, ils ont rien à dire et tout ça, que du coup, moi, j'ai fait un excès dans l'autre sens, en fait. Et je suis allé dans certaines émissions en disant non, vous savez, on peut lire tout ça.
On adore Tolstoï.
Voilà. Alors que on s'en fout de ça, en fait. C'est les conditions dans lesquelles tu vis qui font que tu as moins accès à la culture ou des choses comme ça. Donc voilà. Du coup, je fais très attention maintenant et on m'y reprendra plus, quoi.
Pierre de Vallombreuse, on entend dans ce que dit This Is de Malcolm X, ce qui le touche, c'est le fait que Malcolm X puisse toucher tout le monde, même les désabusés, dites-vous This Is, parce qu'il a connu les impasses, parce qu'il a gardé la noirceur du stupre, et je cite encore This Is à propos de Malcolm X. Vous, avec vos images de ces peuples autochtones, on a parfois l'impression que vous traquez ou vous rencontrez... des bons sauvages, pour reprendre une vieille expression. Est-ce que, au fond, vous n'avez pas rencontré avec chacun de ces peuples qui est confronté à des combats, à des luttes qui sont politiques, qui sont sociales, qui sont sanitaires, aussi des leaders, des personnalités, des personnes qui avaient heureusement la noirceur du stupre et qui avaient quelque chose de complexe, de compliqué et qui en faisaient des individus au sens le plus noble du terme?
Déjà, il n'y a pas de bon sauvage, parce que ça, c'est une notion très colonialiste, voire méprisante, voire raciste, de croire que parce que quelqu'un vit dans la forêt, qu'il semblerait plus gentil que nous, parce que il serait le protecteur de la nature, ce qu'ils sont pas toujours, loin de là. C'est voilà, on en fait une espèce d'humanité presque infantile, parce qu'il y a que les enfants. On dit ils sont gentils, ils sont naïfs, ils sont purs. Donc déjà, j'ai toujours rencontré des gens avec une extrême complexité, même dans les sociétés comme chez les Palawan où ils sont gentils, parce que voilà, c'est une société qui est gentille.
On peut dire, voilà, des Philippines.
Ils sont il y a plein de médisances, il y a des arnaques, il y a des tromperies, tout ça, sauf qu'ils sont dans l'antiviolence. Par contre, ils ont intégré ça donc ça n'existe pas, ça, déjà, et c'est quelque chose qui a été souvent, ce vocabulaire, employé par les missionnaires, par les colons, pour pouvoir justifier une mainmise ou une tutelle. Regarde, t'es un gentil, tu connais pas grand chose.
T'es un enfant.
Moi, j'ai bien t'éduqué, en gros, j'ai bien te niqué passant, en te prenant tout ce qu'il faut.
Enfin, Pierre.
Oui. Non, mais vous savez, quand on vit dans des choses comme ça, on fait des raccourcis linguistiques pour aller droit au but, parce qu'il y a de temps en temps toutes ces précautions de langage qui pourraient, quand on entend Fillon qui disait que la colonie, il en avait marre qu'on parle de la colonisation comme quelque chose qui aurait été vu que d'un point de vue négatif. Voilà, qu'il fallait retrouver une fierté, c'était le désir de partager sa culture. J'ai envie de lui dire, dans ces cas-là, il fallait descendre d'un galion avec un livre et partager ton bouquin. On aurait vu le succès. C'était pas la peine de venir avec une armée. Quand on connaît ce que ça veut dire en exaction, en torture, en exécution, spoliation, ce sont des crimes. Macron a dit quelque chose de très intéressant. Et pour moi, je me suis percé. La colonisation est un énorme crime contre l'humanité.
J'ai de l'interview en Algérie.
Oui, il a totalement raison.
Ce qui est en campagne.
Il l'a dit un petit peu trop tôt, mais bon, je pense que s'il le confirme, c'est quelqu'un qui peut faire évoluer Les choses, c'est voilà, c'est effectivement ça. Donc moi, je suis confronté à des colonisations anciennes avec les reliquats, avec des colonisations contemporaines comme en Indonésie avec les Papous. Voilà, donc non, c'est un véritable crime contre l'humanité, bien sûr.
Mais je suis rassuré de vous entendre parler comme ça, Pierre de Vallombreuse, parce que on sait que vous êtes attaché à l'idée de reliance, cet acte moral qui crée un lien entre le bien penser et le bien agir. Donc il y avait quelque chose à nouveau d'apparemment idyllique. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que peut-être qu'à sa façon, Dicise, en disant des vulgarités avec un flow hardcore, ou du moins en balançant les choses crûment, peut-être qu'aussi vous faites des bonnes actions.
Je sais pas. En tout cas, moi, je fais attention à ce que je dis maintenant, parce que j'ai des enfants. Donc, la vulgarité, quand elle est gratuite, quand elle est là, elle était bien placée justement. Quand il a dit ouais, pour bien vous niquer, c'était tellement bien dit. Bien, là, c'est de la belle vulgarité. C'est bien fait. Mais quand c'est gratuit, c'est comme la plupart des rappeurs aujourd'hui, ça fait pitié, quoi.
Voilà. One, two, three.
C'est toi aussi, pareil.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture. L'anéantissement de l'humanité archaïque ira-t-elle à son terme? Peut-on faire rimer Schopenhauer avec I got the power? Des questions, des réponses et des échanges imprévus aussi à suivre dans la deuxième partie avec le photographe de la Reliance, Pierre de Vallombreuse, et le rappeur Utile, This is La Peste.
Ping Pong. La culture sans limite.
Et à présent, encore un peu plus de bazar, même le grand bordel, disons-le, avec Meds Bazar, 8 musiciens français, arméniens, turcs, kurdes et américains qui dynamitent les musiques traditionnelles du Moyen-Orient, des Balkans, du Caucase et de leur chère Anatolie. Violon, clarinette, accordéon, percussions titubantes et voix éraillées et tendres dessinent une marqueterie mouvante et émouvante à l'instar de ce morceau sélectionné pour vous ce soir par notre grand vizir Thomas Beau, Balik.
I'm just a little fish. I sway along the river. As long as I'm swimming and free, couldn't feel any better. I shoot like a wiggly star in the silver silky water. I don't need no friends, no, no. Don't need no conversation. All that chitin' chatting makes me sink in desperation. All I really need is to be a splishin' and a splashin'. Yüzdüm bir sonsuzluğa.
Balik par les Metz Bazar, extrait de leur album Poche Manella. Metz Bazar sera en concert le 29 juillet au Grand Voisin à Paris.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Les formidables machines étatiques ont manifesté une énorme supériorité matérielle sur les archaïques, massacrés, asservis, chassés dans les forêts, dans les montagnes, dans les déserts, où à partir du 19e siècle, il aura été impossible de demeurer caché. On ne saurait se borner à recenser les qualités de civilisation acquises par les sociétés, notamment européennes, car il faudrait aussi recenser les barbaries et les cruautés sur lesquelles se sont fondées et épanouies ces civilisations. Il n'est pas un signe de civilisation qui ne soit aussi un signe de barbarie, a dit Walter Benjamin. On ne pourrait se borner à recenser les multiples et immenses qualités humaines issues des civilisations historiques, et notamment de la civilisation européenne, mais on ne saurait oublier les pertes de qualités humaines, physiques et psychiques, au profit des égocentrismes clos, de l'esprit du lucre, la perte des solidarités, la perte de polycompétences, de savoir-faire et de savoir. D'où, dans notre civilisation européenne, dès le XVIe siècle, à partir du regard autocritique d'un Montaigne sur l'Occident, le thème du bon sauvage. Au XVIIIe siècle, le thème rousseauiste de l'homme naturel perverti par la civilisation. Puis au XXe siècle, l'amour des ethnographes pour certaines de ces sociétés, les Vistros pour les Bororos. Le magnifique roman d'Alejo Carpentier, Le partage des eaux, nous donne une leçon de nostalgie et de deuil irrémédiable. Le héros du livre, musicologue new-yorkais, reçoit une bourse pour aller collecter les instruments de musique de populations amazoniennes encore inconnues. Sur place, il trouve une femme, comme l'attendait son cœur, et un guide, les conduit à un peuple encore ignoré, dans les profondeurs de la Sylve. Pour s'y rendre, il faut passer par des chenaux, des goulets, et à un endroit précis, où une marque est inscrite sur le tronc d'un arbre, on doit traverser une barrière de branches pour découvrir un passage invisible. Émerveillé par la vie simple, amicale, affectueuse des indigènes qu'il rencontre au détour d'une clairière, le musicologue décide de s'installer dans la forêt et choisit de passer sa vie parmi eux. Au bout d'un certain temps, ses compatriotes inquiets envoient un avion à sa recherche. L'avion survole la clairière et dans un geste instinctif, le musicologue fait signe à l'avion. Celui-ci atterrit non loin. Notre héros décide de prendre l'avion pour liquider ses affaires à New York avant de retourner définitivement dans le village. À New York, il est d'autant plus incité à le faire qu'il trouve une société frivole, superficielle, une vie dérisoire toute de vanité. Il repart pour l'Amazonie, retrouve le guide, refait le trajet. Mais malheureusement, une crue du fleuve a fait monter les eaux au-dessus de la marque indiquant l'accès au village et notre héros perd définitivement le chemin de sa vraie vie.
Lu par Dicis La Peste, c'est la préface d'Edgar Morin à votre livre Pierre de Vallombreuse, Peuple, publié chez Flammarion. Dans cette préface, il parle donc de ses lectures qui ressemblent en fait à vos travaux, pour lui, Edgar Morin, parce que pour lui, vous faites un témoignage photographique qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait sauver avant la crue, si on continue l'histoire de ce personnage. Des peuples, des micronations, pour Edgar Morin, c'est un patrimoine culturel de l'humanité qui a autant d'importance qu'un monument, qu'une architecture, qu'un patrimoine artistique, qu'un paysage. Les sociétés humaines, ces micronations-là, comme patrimoine à préserver et comme résistance à la barbarie de la civilisation, pour reprendre son expression, c'est votre travail, en fait, ce travail de patrimoine avant la crue.
Oui, le monde.
De Valombreuse.
Oui, avant, pendant et après, de toutes les façons, la vie, elle évolue. Il y aura toujours des crues. L'humanité, depuis qu'elle existe, est plutôt désespérante. Donc, voilà, faut s'accrocher et enregistrer tout ce qui se passe, témoigner. Donc, effectivement, mais c'était, moi, je pars du principe que, voilà, qui est pas le mien, hein. C'est, d'ailleurs, Lévi-Strauss avait très bien dit, c'est que chaque société a inventé sur Terre une réponse à la vie et on peut pas préjuger qu'une soit plus importante ou plus juste que l'autre. Donc, on part du principe que, voilà, ce qui fait notre richesse, ce qui nous va nous faire le sel de la vie, qui peut nous faire évoluer, progresser, échanger, partager, accepter. C'est donc cette diversité où on doit se confronter et non pas la voir comme quelque chose qui serait l'étranger serait un ennemi potentiel ou un danger potentiel. Moi, quand je voyage, quand je vois un étranger, je me dis ça peut être un ami potentiel et un enrichissement potentiel. Donc voilà, pour essayer de désamorcer ces conflits. Donc effectivement, on est tous les barbares des uns.
Il y a Montaigne, mais il y a d'autres lectures finalement qu'on sent qui nourrissent le texte d'Edgar Morin. Vous aussi, vous avez énormément lu. Vous n'avez pas que sorti votre appareil photo lorsque vous étiez au contact. Donc c'est un fonds photographique sur 42 peuples autochtones que vous avez fait, Pierre de Valombreuse. Donc en quoi ça vous a nourri aussi et ça a fait avancer vos idées photographiques sur le terrain, tout ce que vous aviez emmené, qu'est-ce qu'il y avait dans la valise de Pierre de Valombreuse?
Alors il y a deux livres et puis aussi des livres que DC's a lu qui m'ont aussi beaucoup influencé, qui sont Exterminer tous ces brutes de Lynn Squeeze, qui est sur qui est un livre sur les génocides. Il y a Hannah Arendt aussi, sa trilogie sur les totalitarismes. Il y a ce livre aussi extraordinaire de Paul Nizan, Aden Arabi, qui est vraiment, c'était un communiste pur et dur, très pur dans sa démarche. D'ailleurs, c'est pour ça que les communistes l'ont viré. Et donc, qui lui a vraiment écrit ce livre, c'est vraiment une révolte, je dirais, très comme un diamant brut. Peut-être un peu excessive, mais en tout cas d'une grande authenticité, une grande vérité. Et puis il y a Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss, qui est vraiment un livre qui est un hymne à cette diversité, à la richesse de l'humanité. Tout d'un coup, si on est trop malheureux avec nos névroses, nos tristesses et nos choses, on a un livre qui nous parle de ces drames, mais qui nous parle aussi, qui nous montre la beauté de cette vie. C'est un livre gourmand de la vie, de l'eau, de l'altérité, et qui devrait désamorcer tous les esprits un peu sclérosés, peureux, frileux, ou qui rejettent l'autre en se disant que c'est grâce à l'autre que la vie va devenir intéressante et passionnante, puisqu'il nous parle de tout, de musique, bien sûr de ses récits ethnographiques, mais d'histoire, d'architecture. Enfin, c'était un homme d'une telle soif de cette vie. C'est un livre d'appétit, d'une extrême gourmandise qui vous donne envie de vivre, hein. Et en même temps, de se battre pour ça.
Mathilde vous parle d'un patrimoine culturel occidental. Elle vous invite en tout cas à nous parler de ce patrimoine culturel écrit par des occidentaux. Mais si on revient à toute cette diversité que vous arpentez depuis tant d'années, qu'on peut découvrir à travers le livre Peuple, donc qu'on évoque depuis tout à l'heure, ou plus récemment le livre Homme Racine. Est-ce que vous nous feriez entendre le nom de quelques-uns des peuples que vous avez rencontrés, de l'Alaska aux Philippines, en passant par le Soudan?
Ah oui, bah là quelques-uns des noms, bah il y a les Palawan, il y a les Yi en Chine, les Navajo en Arizona, les Guichin qui se battent contre le lobby pétrolier dans le Yukon au Canada, il y a les Aymara et Quechua en Bolivie. Il faut savoir que Evo Morales, premier président, donc c'est là on a un retour à la légitimité, enfin un retour à la souveraineté que ces peuples ont tout perdu le jour où les colons sont arrivés. Bon, faut savoir qu'on se réveille un matin et puis on a tout perdu. On se réveille nous, puis voilà, on a tout perdu. Et donc voilà, le premier président autochtone élu au monde, c'est Evo Morales. Maintenant, il s'attarde un petit peu trop au pouvoir, c'est un peu dommage. Mais par rapport à tous les combats menés par les peuples autochtones dans le monde, c'était un exemple extraordinaire. C'est possible. Bon, c'est possible aussi parce que en Bolivie, le taux d'autochtones est très important. Donc, j'étais chez les Inuits au Groenland, qui vont certainement arriver à coucher de retrouver leur autonomie aussi. Donc, on va avoir un nouvel État qui va se créer. Il y a les Adzabé en Tanzanie. Enfin, voilà, les Imba en Namibie. Enfin, il y en a beaucoup.
D'ici. Je voulais savoir justement cette histoire de nom. Le nom Palawan, par exemple, c'est eux qui se nomment comme ça eux-mêmes, ou c'est nous qui avons décidé que eux, par rapport à telle région ou telle, s'appelait comme ça. Est-ce qu'on sait ça ou...
Alors eux, ils se nomment eux-mêmes les Palawan, donc ils sont. Oui, il y a beaucoup de peuples. Souvent, généralement, quand on donne des noms génériques, ça ne colle pas. On dit les Indiens aux États-Unis, ça n'existe pas. Ils viennent d'Inde. Ma deuxième femme était indienne, donc elle était chaque fois horrifiée. Et en plus, on corrige, on dit oui les Amérindiens. Donc on s'engouffre encore, on creuse la faute et tout ça. Oui, ben non, il y a pas d'Indiens en Amérique non plus. C'est pas des Amérindiens. Donc effectivement, ils ont des noms comme les Navajos. les Sioux, les Comanches, les Hopis. Donc ils ont chaque peuple a son propre nom effectivement.
Les Arawaks aux Antilles.
Voilà.
Et est-ce que dans leur individualité, ils ont des noms aussi, ou est-ce que c'est, enfin, est-ce que chacun a un nom?
Oui, ils ont des prénoms, okay. Des noms. Alors après, parfois, c'est le nom du, est-ce que c'est le nom de la famille, de la famille qui va en premier ou en deuxième? Mais chacun se nomme, et effectivement, il faut toujours ne pas plaquer le nom qu'on pourrait colporter le peuple dominant autour, et toujours s'adresser aux gens avec leur propre identité. Ce qui fait, on dit First Nation, Pueblo Indígenas, indigène, autochtone. Il y a une panoplie de noms qui ont été, qui peuvent désigner un ensemble, mais qui n'ont pas qui n'ont pas. Et déjà, le nom est très important, par le nom et par la langue, c'est déjà l'identité.
Mais alors, le nom, on sait que ça compte aussi pour un rappeur qui a choisi un pseudonyme, This is La Peste, devenu This is, je parlais de vos mues successives, vous avez pu même être Peter Punk, This is. Au début de cette émission, vous l'avez dit, Pierre de Vallombreuse, ce qui vous a poussé aussi dans cette aventure photographique, c'est le désir d'être Mowgli. Vous, il y avait aussi un héros comme ça, une figure héroïque de l'enfance que vous auriez aimé être, je sais pas, c'était peut-être plutôt Dragon Ball que Mowgli?
Non, j'ai jamais été en adoration devant mais il y a des gens qui m'ont fait rêver bien sûr hein, mais dans un mimétisme total et tout. Non, moi je voulais fuir à tout prix là où j'étais en fait. Je crois que ça a toujours été ça qui a guidé mon truc, c'est que je cherchais des portes de sortie, des trappes, des passages secrets partout en fait.
Et pourtant là, c'est toujours dans vos textes,
c'est
dans
un point
vos
commun
rimes.
Qu'on a. Ouais. Ah ouais, bah oui, non, c'est sûr. Bah oui, parce que c'est, enfin bref.
Parce qu'il y a les hommes rochers, les Palawans, chers au cœur de Pierre de Vallombreuse. Est-ce qu'on peut pas dire que vous écrivez aussi sur ce qui m'est venu, c'est les hommes du béton? Alors après, c'est une facilité, hein. Mais il y a quelque chose de ça aussi.
Ah ouais, non, c'est sûr.
Une forme d'autochtone.
Qui vous retient?
Oui. C'est sûr que je sais pas quoi vous répondre là.
Que vous retournez les voir, parce que Pierre de Vallombreuse, il continue depuis 30 ans à retourner les voir. Ouais. Ces souvenirs, cette mémoire-là de la cité des Épinettes, d'Evry.
Ouais, mais moi c'est pas pareil, parce que moi ça voudrait dire que je suis un Palawan en fait. C'est-à-dire que je suis un Palawan et je reviens chez moi. Donc et puis il y a pas tant une scission que ça en fait. Moi je vois des êtres humains partout en fait. Donc et c'est justement ce qui m'attriste. Voilà, c'est ce qui m'attriste, c'est que la société nous donne l'illusion qu'on est différent, ou que, alors que c'est pas, on est pareil. C'est-à-dire que moi, là où j'ai grandi, je vois des êtres humains, mais c'est juste que on a tellement mis des codes des différences entre les gens, qu'on ne se considère pas comme les autres, alors qu'on est comme les autres en fait. Mais on a des habitudes, des façons de faire qui font que voilà, on sait un peu moins bien, ou voilà, on est dans des habitudes qui vont pas. Je peux vous donner un exemple très précis. J'en parlais la dernière fois. La manière dont le noir se considère, et dont on considère le noir dans l'inconscient collectif. Alors pas dans les individualités, parce que dans les individualités, il y a des gens qui se considèrent autrement. Mais ce mythe des grosses fesses chez les femmes noires, du grand sexe chez les hommes noirs, le fait de toujours ramener le noir à comment dire, soit à sa force physique et toutes ces choses-là, fait que qui dit force physique dit animal. Et donc, parfois, quand on voit, il y a un site qui s'appelle World Star Hip Hop aux États-Unis, qui montre un petit peu c'est-à-dire qu'on envoie des vidéos de bagarres, de choses comme ça et tout, c'est souvent des noirs en fait, tout le temps. Et donc ça a des effets. Le fait de se considérer comme ça et d'envoyer tout le temps cette image-là, ça a des effets. Et moi, ça m'attriste complètement. Et donc quand je vois certains qui dans leur texte disent ouais, je suis un noir, je suis un gorille, tout ça et tout, ça me donne envie de vomir quoi. Voilà.
Pierre de Vallombreuse, vous parliez tout à l'heure de ce système de reliance qui finalement résonne avec ce que dit This is La Peste, c'est-à-dire au départ il y a une sorte d'unité et puis ensuite il y a un sectionnage par la machine étatique, par la machine sociétale, par la machine des représentations. Ça veut dire quoi pour vous, relier les hommes ensemble par la photographie, puisque c'est le but de ce prix Albert Kahn que vous allez recevoir et que Françoise Huguier, Raymond Depardon ou Marc Riboud ont reçu par la photographie, peut-être justement enlever ces sectionnages?
Oui, bien sûr. Moi, mon travail, c'est de relier tout ça. Donc, on me demandait pourquoi tant de temps je fais de travail en noir et blanc. Ben, ça me permet de gommer une différence déjà par la couleur et déjà de unifier tous ces peuples qui sont. Donc, moi, je suis un apôtre aussi de la diversité. Moi, ça m'intéresse. Mais en même temps, on fait partie d'un tronc commun. On est tous, comme il le disait très bien d'ici, on est beaucoup plus pareils de toutes les façons que dissemblables. Hein. Donc, effectivement, le noir et blanc me permet d'unifier tout ça et d'unifier, oui, c'est une même problématique. Donc, on a besoin de se relier les uns aux autres parce que rien de ce qui est étranger de rester en dehors de l'humain, enfin je veux dire de ce qui est humain de rester étranger. Voilà, exactement. Donc on est tous concernés. On est au bout d'un moment quand même on arrive dans des endroits où on croit tiens, c'est des gens. Finalement, on s'aperçoit que les moyens de communication sont proches. Donc si proche, si assez facile finalement, c'est qu'on est on est reliés tous ensemble. Il y a pas de
rien que de ce qui est humain est animal du coup.
Exactement.
Ping-pong. C'est presque fini.
Ah, ça passe vite, il y a plein de choses. Bah, regarde, t'es un gentil, tu connais pas grand chose.
T'es un enfant.
Moi, j'ai bien t'éduqué. En gros, j'ai bien te niqué passant, en te prenant tout ce qu'il faut.
Enfin, Pierre.
Oui.
La vulgarité, là, elle était bien placée, justement. Quand il a dit, ouais, pour bien vous niquer, c'était tellement bien dit. Bien, là, c'est de la belle vulgarité. C'est bien fait.
Merci à la version à tous deux pour cette belle vulgarité et cette vulgaire beauté que vous empoignez chacun à votre façon. Pierre de Vallombreuse, nous le disions, vous apprêtez le 19 juin à vous retrouver décerné le prix Albert Kahn pour vos photographies qui seront à découvrir si vous avez la chance de voyager aux Philippines au Musée National des Philippines en août et à Paris au Musée de l'Homme en janvier 2018. Quant à vous, DC's, eh bien, pas besoin de prendre l'avion, il suffit d'aller chez un bon disquaire pour trouver Pacifique qui vient de paraître chez Polydor, ou alors on va sur les internets pour télécharger la version dématérialisée et pour écouter Radio DC's sur iTunes Music. Vous serez en concert le 23 juin à Fenouillet, le 8 juillet à Fouesnant, le 21 juillet à Carcassonne, le 13 octobre à Marseille, ensuite à Lyon, à Bordeaux et j'en passe.
6 décembre à l'Olympia.
Le
ouais, super.
Le ping-pong, on y sera. Pierre de Vallombreuse y va. En tout cas,
oui, mais son album est magnifique et très beaucoup de douceur. Et j'ai trouvé beaucoup de beaucoup d'émotions. Moi, il m'a beaucoup captivé. Pardon.
Le ping-pong est un autochtone radiophonique qui vit en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction, Issa Touendoy, Jeanne Léo, Sam Boutata, Anna Baron, à la réalisation, Thomas Bois, la prise de son ce soir, et Juliette Delperou et Nicolas Slimani. C'est à Voix Nue sur France Culture.
Merci beaucoup.
Les micros sont ouverts.